Excellence, Monsieur Lambert Mendé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. L'ONG américaine Human Rights Watch vient de publier un rapport dans lequel il demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de déployer des experts sur la protection civile à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est la réaction du gouvernement face à cela?
C'est une porte ouverte qu'on essaie d'enfoncer pour se donner un rôle. La protection des civils est la première préoccupation du gouvernement. Elle est aussi la première préoccupation de la MONUC et nous ne voyons pas le pourquoi de mesures, disons, structurelles supplémentaires. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'accroissement des capacités d'intervention de toutes ces structures nationales, internationales, qui sont déjà déployées dans le Kivu et qui font du bon travail en dépit de quelques dysfonctionnements qui sont inhérents à la nature des organisations humaines. Mais qu'est-ce que vous voulez si Human Rights Watch se perçoit comme une entreprise de pompe funèbre qui estime que la situation n'est pas bonne dès lors qu'il n'y a pas beaucoup de morts? Alors je ne peux rien pour Human Rights Watch.
Oui, mais donc à ce stade, pour vous, cette structure, comme vous avez bien appelé, vous l'avez bien dénommée, donc pour vous, cette structure supplémentaire n'est pas la bienvenue pour la République démocratique du Congo.
Mais elles ne sont totalement inutiles, je ne crois pas que quelqu'un suivra ces rodomontades de Human Rights Watch qui passe des années, depuis des années, son temps à tirer sur tout ce qui a l'impression d'organiser la vie en République démocratique du Congo, parce que des membres de Human Rights Watch ont découvert une âme de nouveaux civilisateurs, comme Diego Cao, Stanley ou je ne sais qui. Donc personne ne les prend au sérieux, je ne crois même pas qu'ils seront suivis.
Mais lorsque l'ONG accuse par exemple l'FDLR de causer des victimes parmi la population congolaise, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quand même censé justifier que vous puissiez être appuyé dans cette démarche?
Nous n'avons pas attendu Human Rights Watch pour savoir que l'FDLR nous tue. C'est nous qu'on tue. Donc on n'a pas besoin que quelqu'un vienne de Londres ou de New York, là où ils sont en train de s'exciter, pour nous dire que nous mourons, parce que nous mourons. Et quand nous mourons, nous le savons bien parce que nous cessons d'exister. Nous n'avons pas attendu Human Rights Watch pour déployer l'armée, justement, au nord Kivu et au sud Kivu, pour donner la chasse au FDLR. Et nos garçons qui meurent par dizaines, des militaires congolais, je crois que c'est un prix bien plus lourd que les quelques lignes d'encre que Human Rights Watch consacre à ce drame en faisant semblant que c'est Human Rights Watch qui fait plus. Il y a des Congolais qui meurent pour leur pays. Alors un peu de respect, s'il vous plaît.
Vous venez du nord, du sud Kivu, de Bukavu précisément, où il s'est tenu un conseil de ministres. Il y a la société civile qui estime qu'il n'y avait rien à attendre de grand de ce conseil de ministres. Quelle est votre réaction par rapport à cela?
Totalement ridicule. Je conteste même la qualité de représentant de la société civile des gens qui répandent de telles idées, parce que j'ai vu, moi, des vrais membres de la société civile, c'est-à-dire des hommes d'église, pour lesquels nous sommes allés exprimer notre compassion et pour lesquels nous sommes allés soutenir les enquêtes qui ont déjà commencé à mettre au jour les responsables des crimes qui ont ciblé des prêtres. Je les ai vus manifester leur contentement. J'ai vu des artisans miniers, j'ai vu des opérateurs miniers pour lesquels nous avons levé une décision importante d'un moratoire d'une année sur l'interdiction qui leur était faite d'exporter des minerais non transformés, en espérant que le Sud Kivu s'équipera, mais prendre en compte le fait qu'il n'est pas encore équipé. J'ai vu ces gens venir dans les hôtels où se trouvaient des membres du gouvernement exprimer leur joie. Alors de quelle société civile parle-t-il? Peuvent-ils représenter la société civile sans prendre en compte les préoccupations de ceux qui sont sur terrain?
La République démocratique du Congo, c'est pas seulement l'Est où il y a des problèmes, il y a aussi l'Ouest, un peu apparemment, pas apparemment, mais exactement aussi Dongo dans l'Équateur. Vous venez d'annoncer, le gouvernement vient d'annoncer qu'il a récupéré le contrôle de Dongo et que Dongo est sous contrôle des FRDC. Au sujet de Dongo, quelle est votre considération sur la perception de cette crise?
Nous n'avons pas dit autre chose depuis le début de ces événements. Ça a été une crise interethnique, comme il en existe dans cette zone malheureusement depuis les années 40. Ça a été, je crois, la quatrième explosion, mais avec des conséquences plus dramatiques que les trois premières de 1946, 1962 et du début de 2009, qui n'avaient pas fait mort d'homme. Cette fois-ci, la police a dû intervenir d'abord, ensuite conjointement avec l'armée, parce qu'il y a plusieurs dizaines de victimes. Donc il n'y a pas eu de rébellion, nous continuons à confirmer cela, personne n'est venu de ces forces de la Deuxième République qui ont fait leur temps et qui passent leur temps à reconstruire le monde à Paris ou à Libreville ou en Afrique du Sud pour défier nos forces armées, pas du tout. C'est une querelle totalement économique, c'est une querelle d'un autre âge, des gens qui veulent contrôler les ressources d'un étang piscicole et qui ont commencé à tuer des gens qui n'étaient pas de leur tribu. La police anti-émeute a été envoyée, ils ont tué des policiers. C'est ainsi que des mouvements de panique ont été enregistrés dans toute la région, des gens se sont délocalisés et la police a été renforcée, la MONUC également, et ils ont tiré sur la MONUC, provoquant une réaction de débandade tout à fait consolidée. C'est ainsi que des unités mixtes FRDC et police ont été envoyées, ils ne font même pas une brigade, et ils ont résolu le problème. Dongo et ses environs sont en ce moment reconnectés avec l'ensemble du territoire national.
Mais malheureusement, le même conflit commence presque à s'enrichir au Kasaï aussi, avec des terres litières.
Il y a là une sorte de guerre des pauvres contre laquelle le gouvernement entend se mobiliser. Il y a nécessité d'appliquer la loi, et strictement, c'est ce que nous ferons à Dongo. Il n'y aura pas absolument à ménager des gens qui ont du sang entre les mains. Il y aura un programme de amener les différentes tribus qui étaient en conflit à vivre de nouveau ensemble. Il y aura une intervention économique importante, significative du gouvernement pour leur donner plus de moyens pour avoir plus de ressources à se répartir, mais ceci ne concerne que les membres de ces communautés qui ne se sont pas impliqués dans les violences. Quiconque a pris les armes, quiconque a tué, a brûlé la case d'autrui, a violé ou a pillé, sera déféré devant les juges. Comme le président Kabila l'a dit, qu'on se souvienne bien, il y a un temps pour négocier, il est déjà passé, maintenant c'est le temps d'appliquer la loi, et ça sera fait à Dongo, ça sera fait au Kasaï, partout où quelqu'un estimera qu'il peut prendre un couteau pour aller chercher la terre mitière du voisin, au lieu de négocier avec le voisin le partage d'une ressource naturelle qui existe pour tout le monde, eh bien il aura à en répondre devant la loi.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.